J'ai demandé la police. Non, je ne quitte pas.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Ça fait toujours rire.
Ça fait toujours rire.
Toujours Madame Sarfati. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. C'est le nouveau rendez-vous début de semaine et même format en deux temps et à deux vitesses. Première partie, l'actualité et la musique live. Deuxième heure, les archives extraordinaires de France Inter. Et l'actu ce soir, c'est que fait la police. Violence policière, mais aussi police violentée, conditions de travail difficiles, explosion des heures supplémentaires non payées, 48 suicides de policiers en 2019 et mercredi, une marche de la colère, Christophe Bourseiller.
Oui, tout à fait, c'est bien vu.
Un titre pour l'émission.
Ah, vous voulez un titre?
Allez, si vous en avez plusieurs, j'imagine.
On peut plusieurs. Oui, il y a évidemment policiers, victimes ou bourreaux, point d'interrogation, un titre à faire. Sinon, niquer la police à force de la niquer, on va finir par la vexer, point d'interrogation. Ça me pensait aussi à gardien de la paix ou gardien de l'ordre. Vous voyez la nuance.
Ouais, je vois la nuance.
Et puis alors un vieux slogan gauchiste, policier sous l'uniforme, tu restes un travailleur.
C'est pas mal non plus.
C'est pas mal aussi.
Très bien. Surtout qu'on va parler des syndicats.
Voilà,
sur le plan musical ce soir, Marion Guilbeault, pour finir cette première partie, ce sera...
On le connaît chanteur, on le connaît guitariste, on le connaît producteur, on le connaît patron de label. On va le retrouver organisateur de festival. C'est le sien, Rodolphe Berger. Et sa guitare Flying Bird sont en live à la fin de l'émission.
Et puis, autre temps, autre parole, ce sera le NRV La Sud, France Inter, plus de jazz cette semaine, rythmé par Give Me Jazz, l'émission de Guy Vanctil, qui avait scandé notre été 2008. Au programme ce soir, pour ouvrir ses reportages musicaux à travers les États-Unis, ce sera la Nouvelle-Orléans, le berceau du jazz. Alors, le NRV, allez, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Jazz en deuxième heure, aucune improvisation dans la première partie. Je vous présente nos invités. Judith Ventroux, vous êtes journaliste au Figaro, bonsoir.
Magazine, bonsoir.
Bonsoir. À vos côtés, Agnès Naudin, vous êtes policière à la Brigade des Mœurs et auteure d'Affaires d'ados aux éditions Cherche Midi, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Monique Chemillier-Gendreau, vous êtes professeure émérite de droit public et de sciences politiques à l'Université Paris Diderot et vous signez Régression de la démocratie et déchaînement de la violence. C'est aux éditions Textuelles, bonsoir.
Bonsoir.
Et juste à côté de moi, Philippe Deveux. Vous êtes animateur du collectif Robe Noire et Gilets Jaunes, avocat de plusieurs manifestants blessés. Bonsoir à vous.
Bonsoir, merci.
Christophe Bourseiller, c'est
oui,
à vous.
C'est à moi, vous voulez dire. C'est
pour un éditorial, voilà.
Et pourquoi pas. Mais vous y tenez, Laurent, à parler de la police en 2019. Donc, je vous dis ça parce que l'idée selon laquelle nous allons vers un état policier ou selon laquelle nous vivons dans un état policier, on en parlait déjà sous Pompidou et Giscard dans les années 70 du siècle dernier. Vous savez, Laurent, que les maoïstes étaient persuadés qu'on allait à l'époque vers la fascisation. Flic, fasciste, assassin, c'était le slogan le plus repris. Alors en guise de fascisation, on a eu Mitterrand, après on a eu Chirac, après on a eu Sarko, Hollande, et nous voici arrivés à Macron. Nous sommes donc, Laurent, vous me suivez, en 2019, et on entend toujours les mêmes débats répercutés sur les chaînes info. Alors d'un côté, mettons un gilet jaune, et de l'autre, disons, un syndicaliste policier. Et c'est reparti pour un tour, les uns et les autres, s'envoyant au visage leurs blessés. Certes bien réel. Alors l'émeute appelle la répression engendre la colère et l'incompréhension demeure. Philippe Deveul, vous êtes l'avocat de plusieurs blessés. Pensez-vous que la police a eu tort de réprimer les Black Blocs lors de la marche pour le climat ?
Alors oui, ce qui s'est passé en fin de compte, c'était une forme de remake du 1er mai où le cortège a été coupé alors que c'était un cortège bon enfant. Alors semble-t-il qu'il y avait eu des éléments violents, comme à l'habitude, et que c'est ce qui avait provoqué les jets de gaz lacrymogène et la dispersion du mouvement lors du cortège. Alors, il est normal que s'il y a des éléments violents, que la police intervienne. Mais ce qui n'est pas normal, c'est d'intervenir violemment avant que les violences ne soient commises. Ça, c'est le premier point. Il faut que ce soit proportionné. Alors, on nous met les Black Blocs. Mais les Black Blocs, c'est pas... des cousins des Gilets jaunes. Les Black Blocs, c'est un phénomène qui existe depuis l'an 2000, qui s'oppose au mondialisme économique, qui s'en prennent à des symboles. Et d'ailleurs, leur méthodologie a bien été expliquée par Alain Boer. Ce sont des gens connus des services de police. Bien avant le mouvement des Gilets jaunes, le 1er mai, sur le Pont Neuf, il y avait plusieurs centaines de Black Blocs, et la police n'est pas intervenue. Voilà.
C'est donc la réponse à la question de Christophe Bourseiller.
C'est ma réponse, c'est-à-dire, y a-t-il un intérêt, justement, de faire puisqu'ils sont plus ou moins connus et qu'il y a quand même un service de renseignement très fort, pourquoi s'en prend-on à des figures quand ils vont sur les Champs-Élysées, ils reçoivent des contraventions de 135 euros, alors que les Black Blocs sont généralement connus et fichés et infiltrés? Et on les laisse rentrer dans les manifestations, si vous voulez, pour... Ça sert l'État en disant, vous voyez, c'est des gens violents.
Judith Weintraub.
Faut rappeler juste que Black Bloc, c'est une stratégie. Il n'y a pas un club Black Bloc auquel on adhérerait et dont on aurait une carte de membre permanent ou intermittent. C'est ce que répond la police, le ministère de l'Intérieur, quand on s'étonne, et à mon avis légitimement, que les Black Blocs puissent commettre des violences manif après manif à des degrés d'intensité variables. Est-ce qu'on les connaît si bien que ça? Je n'en suis pas sûre, parce qu'il me semble qu'en France, depuis fort longtemps, il y a une complaisance vis-à-vis de la violence d'extrême-gauche qui n'existe pas du tout vis-à-vis de la violence d'extrême-droite. J'en veux pour preuve un exemple récent. Cette commission d'enquête parlementaire qui a été faite à l'Assemblée nationale sur l'extrémisme ne concerne que l'extrême-gauche. Elle a été faite à l'initiative... Pardon ?
Dire l'extrême droite.
Que l'extrême droite, pardon. Bon. Elle a été faite à l'initiative de la France insoumise. Plusieurs députés de droite, d'ailleurs, ont dit qu'on pourrait éventuellement s'intéresser aussi à l'extrême gauche, aux groupes d'extrême gauche et aux violences qu'ils commettent. Ils ont obtenu une fin de non-recevoir. Donc il n'y a pas à ce jour d'enquête de la représentation nationale sur les violences d'extrême gauche.
Alain Snowden, qu'est-ce que vous répondez quand, par exemple, les organisateurs de la marche pour le climat ont dénoncé le fait que les forces de l'ordre ont projeté sans sommation des grenades de désencerclement dans le cortège, donc une violence policière qui serait inédite à leurs yeux?
Alors moi, je ne suis pas dans la politique.
Je sais. Hein,
donc c'est compliqué pour moi de répondre à cette question-là. Ce que je peux dire, c'est qu'à partir du moment où les policiers agissent, c'est qu'on leur en aura donné la possibilité de le faire et qu'ils le font sur ordre. Donc c'est pas à eux de choisir de le faire ou de ne pas le faire. Ça fait partie des prérogatives qu'ils ont à partir du moment où ils se sentent menacés ou où ils doivent protéger aussi les gens qui sont autour. On n'est jamais, enfin moi en l'occurrence, j'étais pas là. C'est toujours compliqué de parler des événements quand on n'y est pas, et c'est toujours facile après coup de dire ah bah oui mais vous auriez dû faire ça ou il aurait été mieux de faire comme si. Quand on n'est pas dans la situation et qu'on sait pas qui on a en face de nous, que ce soit des gilets jaunes, des black box ou peu importe qui d'ailleurs, c'est la personne qui va agir à un moment avec son discernement, avec ce qu'elle est à un moment donné. Et je trouve qu'il est toujours un peu facile de après coup de dire il l'aurait pas dû ou elle aurait pas dû.
Alors à propos de gens qui ont vécu véritablement la scène, il y a une auditrice qui nous a appelé sur notre répondeur, le 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37, et voici son analyse et ses conclusions.
Bonjour, je vous laisse ce témoignage de façon anonyme parce que ce n'est pas une situation particulière, elle interroge énormément de personnes et elle inquiète. C'est-à-dire que pour cette France de 2019, descendre dans la rue, c'est prendre un risque. Tous ces Français qui décident de descendre dans la rue, qui veulent s'exprimer et montrer simplement leur peur et leur crainte, on fait que les réprimer par la violence. On fait que, évidemment, les forces de l'ordre n'ont pas des conditions enviables, mais faire entrer, par exemple, sur le terrain des unités qui ne sont parfois pas formées à encadrer une manifestation ni à protéger les manifestants, ça ne fait qu'augmenter cette violence aveugle et démesurée dont il m'est arrivé moi-même d'être la cible comme tant d'autres. Ce sont des choses que j'ai pu observer lors des dernières manifestations récentes avec un gazage répétitif de manifestants évidemment et objectivement pacifiques qui cherchent plus souvent à fuir et sont bloqués par les forces de police. On a l'impression que c'est une volonté de faire peur aux manifestants pour qu'ils ne reviennent plus et instaurer ce lieu comme véritablement dangereux. Toutes ces exactions sont internationalement critiquées, notamment à l'ONU, et le gouvernement ne semble pas en tenir compte, ni même les représentants des forces de l'ordre, et c'est ça qui est aujourd'hui le plus étonnant.
Monique Chemillier-Gendreau, peut-être une réaction par rapport à ce témoignage donc,
oui,
d'une auditrice.
Je pense que ce dont nous parlons là depuis un petit moment, c'est la surface des choses. Et elle est à prendre en considération, mais il faut aller voir ce qu'il y a dessous. C'est-à-dire que les Black Blocs se sont développés et des manifestations violentes à la lumière depuis quelques mois du mouvement des Gilets jaunes. Mmh. Et le mouvement des Gilets jaunes, qui n'était pas violent en soi, qui a dégénéré quelquefois, correspond à ces éruptions de violence qui arrivent dans une société lorsque certains dans cette société n'ont pas le sentiment d'appartenir à la société politique.
Bon, ça c'est l'analyse en effet des...
N'ont pas le sentiment d'appartenir à quelque chose de commun. Et on le voit bien, les Gilets jaunes, on connaît quand même maintenant la profondeur de l'histoire, elle est de plusieurs décennies. C'est-à-dire que les gouvernements successifs ont abandonné ce qu'on appelle aujourd'hui les territoires, c'est-à-dire des régions entières de France, qui n'ont pas participé au développement en général. Ils se sont retrouvés à l'abandon et l'étincelle, ça a été l'augmentation du prix de l'essence. Et on a maintenant, depuis tous ces mois, ce mouvement. Mais je pense qu'il faut aller voir la profondeur de la politique. C'est l'absence de réponse politique à des considérations qui déclenchent la violence.
Et la question qu'on se posait, c'était la question de savoir si, lors d'une manifestation, finalement, la police jetait de l'huile sur le feu ou instrumentalisait les casseurs, ou si elle était en train d'essayer de les réprimer. Judith Weintraub, est-ce que vous pensez, comme dit Philippe Deveul, que la police instrumentaliserait d'une certaine façon les casseurs, c'est-à-dire en les réprimant quand il le faut?
Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est pas la police, c'est le pouvoir politique.
Et voilà, je suis tout à fait d'accord. Oui. J'accuse pas du tout la police. C'est la police qui est instrumentalisée par le pouvoir politique, oui, d'un pouvoir qui se dit démocrate et libéral.
Alors, voilà. Ayant rectifié, pour être vraiment, je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi ? Simplement parce que ce serait complètement contre-productif. Comment Emmanuel Macron se rétablit-il dans les sondages et grâce à qui ? Grâce à un électorat de droite qui a voté François Fillon à la dernière présidentielle, qui migre en masse pour se transformer en soutien d'Emmanuel Macron. Et pourquoi ? Parce qu'il soutient l'ordre et celui qu'il incarne, à savoir le président de la République. Donc, chaque désordre est un risque. Que ce nouvel électorat se dise, finalement, il a la position, mais il n'est pas à la hauteur de sa tâche, il n'arrive pas à maintenir l'ordre. Donc, provoquer sciemment des incidents dont on ne saurait absolument pas comment ils déboucheraient et sur quel blessé, mort ils déboucheraient, ce serait totalement irresponsable.
Mais comment on peut expliquer que, par exemple, pour l'acte 45, même si je n'aime pas du tout cette expression du 21 septembre dernier, il y avait 7500 policiers à Paris, des blindés de la gendarmerie, 164 interpellations, 120 gardes à vue à Paris?
Mais on peut pas faire un lien de cause à effet entre la quantité de forces de l'ordre mobilisées et la façon dont se sont déroulés les événements.
Mais la quantité de forces mobilisées...
C'est pas nous qui choisissons de venir travailler le samedi et le dimanche, hein.
Quand on fait le décompte des victimes du mouvement des Gilets jaunes dont parlait Monique Chemier-Gendron tout à l'heure, on aboutit, enfin j'ai regardé les chiffres, vous allez me dire si je me trompe, on aboutit en tout à 11 morts.
Oui, mais 11 morts qui n'ont pas lié aux violences policières.
Bah oui, si je peux terminer ma phrase, je pourrais peut-être le dire effectivement. Et alors ce qui est intéressant, c'est que parmi ces 11 morts, il y a 3 Gilets jaunes qui participaient à des blocages et qui ont été écrasés par des automobilistes. Il y a 7 conducteurs de véhicules, et il y a une dame qui a été tuée par un tir de grenade qui rentrait dans son appartement.
Christophe, vous ne pouvez pas le dire comme ça.
Je ne peux pas le dire comme ça.
Mais non, il y a une dame qui s'appelle Madame Zineb Redouane, qui était à son balcon au 4e étage de son immeuble à Marseille, qui a reçu, pour ce qu'on en sait, pour ce qu'a dit l'enquête, elle est encore en cours. L'affaire a été dépaysée justement parce qu'on considérait qu'à Marseille, il n'y avait pas les éléments de sérénité nécessaires pour la juger. Elle a reçu des éclats de grenades lacrymogènes. Elle a été emmenée à l'hôpital. Elle est morte le lendemain. Pour le moment, on ne peut pas dire ce qui l'a tuée.
Donc on ne peut pas à proprement parler d'une très forte, pardon de le dire Philippe Deveul, violence policière, d'autant plus que en janvier on décomptait 1700 blessés chez les manifestants et 1000 blessés dans la police. Donc on était dans des chiffres qui étaient quand même non pas équivalents mais relativement proches des deux côtés, me semble-t-il.
Le problème
Monique Chemier-Gendron
n'est pas seulement comment agit la police, mais avec quoi elle agit. Ce qui est inadmissible dans un État comme la France, qui se dit un État de droit, un État démocratique, la patrie des droits de l'homme, etc., c'est que la police soit armée de cette manière totalement disproportionnée par rapport à ce qu'elle a en face d'elle.
Mais d'ailleurs, elle a été critiquée par l'ONU pour l'usage excessif de
LBD. Mais je ne comprends pas comment la France ne légifère pas.
Et récemment par le Conseil de l'Europe.
Mmh. Oui, voilà. pour mettre les policiers face aux manifestants avec des moyens adaptés et pas des moyens totalement inadaptés.
Mais finalement, le problème en France, c'est que si on n'obtient rien si on n'est pas violent. C'est-à-dire qu'au fond, après tout, les mouvements sociaux qui obtiennent quelque chose sont les mouvements sociaux qui se terminent par l'émeute. Est-ce que c'est pas malheureusement un fait, Philippe Devol?
Oui, c'est aussi une des conséquences. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu de la violence dans cette action. Et d'ailleurs, c'était au départ, c'était pas violent. Les Gilets jaunes, c'était les ronds-points, c'était le 17 novembre sur Paris, où on va jusqu'à l'Élysée crier son mécontentement, et c'était pas du tout violent. C'est devenu violent plus tard, vers le deuxième, troisième acte. Et là, j'étais témoin, puis ça s'est passé quasiment devant chez moi. Il y avait des forces de l'ordre. Il y avait des casseurs qui venaient, c'est les mêmes casseurs qui cassent après les matchs de foot, qui agissaient avenue de la Grande Armée. Les forces de l'ordre étaient à 100 mètres et elles ont laissé faire. Il n'y avait pas d'ordre donné pour arrêter ce genre de violence. Et si vous voulez, ça a toujours été, c'est monté crescendo.
On leur reproche de pas intervenir, on leur reproche
oui,
d'intervenir.
Oui, ben justement, c'était le moment d'intervenir parce que tous ces commerçants qui ont été saccagés sur l'avenue de la Grande Armée, ils ont eu beaucoup de mal à s'en remettre. Je pense à la pharmacie dans le coin, elle a beaucoup de mal à sauver son entreprise. Et pourtant, les forces de l'ordre étaient à 100 mètres. Bon, comment voulez-vous? Si on n'intervient pas, c'est normal que les casseurs fassent leur base d'œuvre. Donc, si vous voulez, il y a quand même un mystère pour moi, pourquoi il n'y a pas eu d'ordre, pourquoi un matin, 3 décembre, il y a des manifestants qui viennent de province manifester à 9h ou à 9h moins le quart, on les gaze sur la place de l'Étoile, alors que c'était bon enfant. Vous comprenez, pour moi, tout ça me paraît un peu mystérieux.
Après les violences policières, on va parler aussi de la violence qui est faite à la police. En deuxième partie, tout de suite, je vous propose d'écouter Niska. Il est rappeur, il vit à Évry, il s'infiltre partout avec son nouvel album Mister Sale. Des millions de clics, même sur France Inter. C'est la routine de Niska dans le Énervé, la programmation quotidienne de Jean-Baptiste Audibert.
Rendez-vous.
Dégradation des conditions de travail, violence verbale et mobilisation inédite sur les manifestations des Gilets jaunes.
23 millions d'heures supplémentaires non payées accumulées depuis des dizaines d'années.
Moi, je défendrai jusqu'au bout la spécificité du statut des policiers et des statuts des gendarmes.
Autant de facteurs qui poussent les forces de l'ordre à bout.
Laurent Goumard.
Autre statistique absolument terrible en 2019 en France, un policier se tue tous les 5 jours.
Un numéro de téléphone sera notamment disponible 24 heures sur 24 pour mettre en relation les policiers en souffrance avec des psychologues.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Après les violences policières, le malaise de la police, on en parle ce soir avec nos invités. Philippe Deveul, qui est animateur du collectif Robe Noire et Gilets Jaunes. Judith Ventraub du Figaro. Agnès Nodin, magazine, qui est policière à la Brigade des Mineurs, exactement, magazine. Monique Chemillier-Gendreau, qui est l'auteur de Régression de la démocratie et déchaînement de la violence. Il va y avoir une manifestation, une marche de la colère le 2 octobre, appelée par les syndicats policiers, par certains syndicats policiers. Vous en serez, Agnès Nodin?
Oui.
Pour quelle raison précisément vous, cette marche de la colère?
Ouais.
Sur quel niveau? Les conditions de travail, la politique sociale pour les agents, la réponse pénale plus efficace, la défense des retraites?
Ah bah je vous répondrai à tout ça. Ouais. Je pense que les sujets sont multiples. Le malaise dans la police, il est pas, il est multifactoriel. Donc toutes les tensions auxquelles ils sont soumises quotidiennement, que ce soit de la part de des citoyens, de la hiérarchie, les médias. Et j'en passe et d'autres, font partie des raisons pour lesquelles, effectivement, ils finissent par se suicider. On n'en est pas à 48, on en a à 51.
À 50, en effet, à 51 encore dernièrement, voilà, oui.
Alors qu'il y avait eu seulement 35 suicides en 2018.
Seulement, c'est déjà
Non, mais effectivement, si on prend ce nombre-là par rapport aux agriculteurs, on en a encore loin. J'espère qu'on ne sera pas obligé d'aller...
Agriculteurs, c'est un tous les jours. Ouais.
C'est un tous les jours, oui. Ils en sont à 800 sont... et quelques. Ouais, donc, entre les agriculteurs, et puis je pense que l'hôpital aussi n'est pas en reste. Je dirais presque qu'avec 50, on est encore dans des chiffres qui ne sont pas trop dramatiques. Mais j'aimerais bien qu'on évite d'y arriver.
Quelles seront les principales revendications justement des policiers aujourd'hui? Ça ne concerne pas simplement les 23 millions d'heures supplémentaires non payées. Ça concerne quoi plus précisément, d'après vous?
Du respect, déjà, commencer par ça, de la part des citoyens. Parce que c'est sympa de nous dire à quel point on est important après le Bataclan. Mais ça, c'est pas, c'est tous les jours qu'on est là. Donc effectivement, comme vous le dites depuis tout à l'heure, il y a une dimension répressive et il y a une dimension protectrice de la police. Et ça, c'est une espèce de schizophrénie tous les jours qui est pas évidente.
On n'en parle jamais de la dimension protectrice. Quand on parle police, on voit des matraqueurs, des CRS. Alors que vous incarnez justement la brigade des mineurs, l'aide aux adolescents, c'est quelque chose de complémentaire au fond peut-être,
c'est
de différent en tout cas.
C'est pour ça que j'écris, pour donner un éclairage aussi sur tout ce qu'on dit pas, tout ce qu'on. Je pense que la police communique très mal sur ce qu'elle fait, sur ces hommes et ces femmes, sur ce qu'ils font au quotidien, sur qui ils sont. Donc voilà, le fait d'écrire et d'en parler, c'est aussi pour pouvoir donner une autre image que celle qu'on a. Mais finalement, c'est que celle qu'on a ou qu'on a envie d'avoir. Je sais pas. Est-ce que à tout le temps parler des violences policières dans les médias, les politiques et tout.
C'est pour ça qu'on voulait qu'il y ait deux sons de cloche aujourd'hui.
C'est pour ça qu'on vous a invité. Ouais, c'était gentil. Justement pour avoir la vision d'une policière qui peut-être aborde son travail différemment. Quand vous entendez le slogan qui est comme un mantra aujourd'hui dans les manifs, tout le monde déteste la police. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça vous fait, Agnès Nodin?
Je vais vous dire que ça me fait plaisir. Ça a arrêté de me rendre triste, parce que j'ai arrêté de me dire que les gens se rendaient pas compte. En fait, je pense qu'ils ont peut-être pas les capacités de le faire, ce que je trouve dommage. Mais ils se le rappellent toujours quand ils en ont besoin. Donc, à un moment donné, je leur souhaite pas de s'en rendre compte, parce que malheureusement, ça peut arriver à tout le monde. Et généralement, dans ces cas-là, on se dit « Ah, j'aurais peut-être dû penser autrement ou voir les choses différemment. » Souvent, c'est trop tard. Mais je pense que si aujourd'hui ils ont décidé de descendre dans la rue, un peu comme le mouvement des policiers en colère il y a 2 ans, parce que ça fait partie des choses qui sont récurrentes, sur lesquelles on n'avance pas, et où la situation elle s'empire, puisqu'on a de plus en plus de suicides, que les solutions elles sont pas trouvées, que là j'entendais dans le jingle les lignes ouvertes pour discuter avec des psychologues, on les connaît, ce sont des lignes qui existent déjà, donc après on peut toujours transformer un outil, on lui donne un nouvel habillage, mais ce que je trouve, ce qui moi me fait peur, c'est que les gardiens de la paix, ils ont peur en fait de les appeler, ils osent pas le faire parce qu'ils n'ont pas confiance. Donc
ils n'ont pas confiance en quoi?
Ils n'ont pas confiance dans le fait d'appeler un psychologue, même si c'est des numéros verts, même si on n'est pas censé, on est censé être anonyme.
Anonyme,
même si,
ouais.
Voilà, exactement.
Ils ont peur que ça ne soit pas anonyme.
Mais que ce soit pas anonyme ou que les gens finissent par le savoir et voilà et que ça leur retombe dessus. Donc aujourd'hui, ils mettent en place des outils dans les eux-mêmes, tout seuls, dans lesquels ils évincent complètement les psychologues, la hiérarchie, parce qu'ils ont l'impression et je pense à juste titre, d'être seule contre tous.
Alors, voilà. Dites-moi si c'est faux ou pas, parce que je parle sous votre contrôle, étant donné que je dis souvent des choses fausses, c'est bien connu. On parle dans la police, de nouvelles pratiques managériales. On dit qu'aujourd'hui, il y a des impératifs de rentabilité, qu'il y a une sorte de déshumanisation, un contrôle hiérarchique plus grand, un formalisme accru. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous ressentez ce phénomène-là, des nouvelles pratiques managériales, des quotas d'interpellation? Si on fait pas son quota, on est moins bien noté. Est-ce que c'est la vérité ou pas,
Agnès Nolet?
Alors, sur le grand mot que vous avez utilisé, les nouvelles pratiques managériales,
oui.
Je pense que dans la police, on en est encore à se demander quelle est la différence entre le commandement et le management. Voilà, c'est déjà de faire la part des choses et d'essayer de faire comme les militaires en ne pouvant pas le faire parce qu'on ne fonctionne pas comme eux. Donc, on a des pistes de réflexion sur comment effectivement rendre les choses de façon plus humaine dans le cadre de notre travail. Manifestement, ça ne doit pas marcher, enfin, je crois. Alors après, peut-être qu'il faut encore attendre un petit peu. Je pense que c'est une réflexion qui doit être individuelle de la part de tous les managers qu'on peut avoir, quel que soit leur niveau et quel que soit leur grade. Déjà, à commencer par soi, c'est-à-dire de voir la façon dont on a envie d'exercer il y en a qui disent pouvoir, moi je dis responsabilité, vis-à-vis des effectifs effectivement qui sont entre guillemets sous nos ordres et dont dépendent pour moi, mais c'est ma façon de voir les choses, leur bien-être, leur santé, etc. La politique du chiffre, tout ce qui est sur les ce que nous on va appeler les mises à disposition, les interpellations, etc. J'étais pas dans un service où j'ai pu m'en rendre compte tous les jours. Ce que je sais, c'est que ça fait partie des choses qui sont dans le... C'est-à-dire que même si c'est pas officiel, ça fait partie pour les gardiens de la paix d'une façon de pouvoir gagner l'estime de la hiérarchie, de pouvoir avoir de la reconnaissance, parfois même d'avoir des primes au mérite, etc. Voilà. Est-ce que c'est vraiment le cas ou pas? J'en sais rien, mais ce que je sais, c'est qu'effectivement, ça fait partie des choses dans lesquelles, comme ils n'ont pas leur reconnaissance ailleurs, ils vont la chercher là où on peut la leur donner, et effectivement, on la leur donne sur ces sujets-là.
Sur le chiffre d'interpellation.
Et c'est ce que je déplore.
Monique Chemillier.
Oui, je trouve très important de parler, comme vous venez de le faire, du malaise des policiers, de montrer que ce malaise a des bases légitimes. De manière à ce que on réintègre les policiers dans le corps social. Ils sont avec nous, nous formons la même société, ils ont un rôle et nous sommes dans une autre position. C'est capital. Moi, ce que je pense, c'est que la position du pouvoir engendre ce malaise. Le pouvoir a peur. On l'a bien vu au début du mouvement des Gilets jaunes. Le pouvoir a peur et naturellement, il nourrit la peur, d'abord du côté des policiers et du côté de la population. Et les policiers ont perdu de vue le rôle pacificateur. Alors je ne sais pas si aujourd'hui, dans la formation des policiers, on les éduque à tout notre patrimoine en matière de droits de l'homme, à tout ce qui est le respect de la personne, etc. On a le même problème en droit international, qui était ma spécialité à la faculté, où on a un problème d'éducation des soldats au droit international humanitaire, c'est-à-dire au respect des personnes. Donc, il faudrait que du pouvoir découle une manière d'appréhender ce problème qui résonnerait chez les policiers ensuite. Là, je voudrais renvoyer à l'excellent livre qui a déjà plusieurs années de Didier Fassin, qui s'est appelé « La force de l'ordre, une anthropologie de la police des quartiers ». Il avait obtenu comme sociologue d'être embarqué dans une brigade anticriminalité. Et son bouquin raconte son expérience. Et à propos de ce que vous disiez tout à l'heure du chiffre, il raconte, il a vécu pendant 6 mois avec la brigade. Il allait faire les rondes de nuit, etc. Il raconte que quand une brigade n'avait pas fait suffisamment d'interpellations à la fin du mois ou de la semaine, je ne sais pas comment il comptait, vers 4h du matin, ils allaient faire une virée dans les quartiers au pied des immeubles et ils arrêtaient quelques gamins en train de fumer pour pouvoir ajouter à leur cahier le nombre d'interpellations qu'ils avaient faites. Donc voilà, c'est un exemple qui a été donné par Didier Fassin dans ce livre qui remonte à 2011, qui a paru au Seuil. Je ne sais pas si c'est encore vrai ou encore plus vrai aujourd'hui, mais manifestement, ce n'est pas la bonne approche de la police.
Non, il y a quelque chose qui vient d'en haut. On est un peu sorti de la politique du chiffre depuis M. Sarkozy. Je veux dire, ça a été des crescendo. Mais je pense que c'est des, je pense que cette ère, on va l'appeler comme ça, cette ère-là, elle a profondément marqué, en fait, les policiers, parce que ça a changé leur façon de travailler, de voir les choses. Et eux-mêmes en souffrent.
Oui,
croyez-moi.
Oui. Ça, ça crée le malaise, évidemment.
J'ai dit d'un trouble.
Oui, vous avez cité le respect comme la première des revendications, en tout cas le premier des besoins pour essayer de pallier ce malaise dans la police. Pour parler à des policiers assez fréquemment dans le cadre de mon métier, il y a un énorme problème aussi avec le sentiment que leur travail ne sert à rien parce que la justice ne suit pas. Quand vous parlez,
c'est pour ça qu'ils veulent notamment pour cette marche une réponse pénale beaucoup plus efficace.
Alors, rapide. La justice suit dans le cas des gilets jaunes. Je peux vous dire que la justice est féroce.
Concernant quand elle fait son métier, la justice, on dit qu'elle est féroce, et quand elle ne le fait pas,
on dit qu'elle est trop gentille
avec les black blocs. C'est ça que vous voulez dire.
Non. Attendez, non, vous n'allez pas. Il faut me laisser un petit espace pour que je vous explique. C'est que je vais souvent au TGI défendre devant le tribunal correctionnel des mises en cause dans des comparutions immédiates, qui sont tout à fait injustes. Si vous voulez, avec des accusations venant des forces de l'ordre, reprises par le parquet. Et en face, on a quelqu'un qui est jugé et qui peut jouer sa liberté, alors que souvent ce sont des personnes qui n'ont jamais eu d'histoire avec la justice. Donc il y a une répression qui suit la violence policière au niveau de la justice. Et ça...
Oui, mais ça, c'est le cas des gilets jaunes, mais c'est pas le cas dans la même...
C'est même pas le cas de tous les gilets jaunes, parce que même les avocats qui s'occupent de ces dossiers vous disent que ça a été effectivement très sévère au début, que là, ça a tendance à
se... Ça commence un peu à s'apaiser. Ça commence un peu à s'apaiser, la preuve en est, j'obtiens des relax, etc. Pour certains, j'ai pas pu l'avoir, mais le plus emblématique des cas, c'est Christophe Détinger, qui...
On rappelle que c'est le boxeur.
C'est le boxeur. D'ailleurs, il y a un très bon livre qui est sorti, écrit par Antoine Payon, Cœur de boxeur, qui relate tout à fait les faits. C'est-à-dire, on voit la violence légitime injuste contre la violence illégitime juste. Alors, on a fait toute une cabale pendant
la semaine. On parle du boxeur qui donne des coups de pied dans la tête d'un flic à terre. Hein, on parle du boxeur qui donne des coups de pied dans la tête d'un flic à terre.
Attendez,
rappeler à nos auditeurs les images.
Alors, les images, parce qu'il y a eu une manipulation des images qui ont montré quelqu'un qui s'en prenait aux forces de l'ordre. On dit, mais c'est vrai, c'est un violent, c'est un
hooligan. Ils s'en prenaient aux forces de l'ordre. Oui, ils s'en prenaient aux forces de l'ordre.
On a dit, alors, le gouvernement dit, il faut de justice exemplaire. Concernant cet individu. Mais quand on voit les images, on dit, bah oui, il faut une justice exemplaire. Oui. Mais quand on regarde de près les faits, il faut savoir que le gendarme qui a été pris à partie, qui a été roué de coups, rossé, je dirais, au sol, et qui était quand même protégé, et...
Attendez.
Non, il y avait une femme au sol qui, elle, a une maladie grave et qui était violentée par ce garde mobile qui est un gendarme. Et ça, c'est pas admissible. Moi, je vous rappelle que le préfet de 68, le préfet Maurice Grimaud, disait quand on frappe un homme à terre, on se frappe soi-même. Donc, si vous voulez, ça, c'était un élément, justement, prouvant, voulant accabler quelqu'un dans la violence. Alors, oui, il a reconnu que Détinger a reconnu que c'était ce qu'il avait fait, c'était pas bien et qu'il voulait être condamné. Mais au juste prix, mais pas de manière disproportionnée comme c'était le cas avec le gouvernement.
On va refaire le procès de ce boxeur.
Il faut des exemples concrets. On va pas rester dans le vague ou dans les statistiques. Moi, je vous parle de choses concrètes que j'ai vécues sur le terrain. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec Madame Chemillet-Gendron, où le gouvernement n'est pas adapté et prend emploi des forces de l'ordre en étau, en les mettant en face des manifestants, en leur donnant des ordres et en les couvrant lorsqu'ils commettent des actes répréhensibles, comme frapper un manifestant au visage, comme jeter un pavé sur des manifestants. Alors dans ces cas-là...
Éborgné,
attendez, je reviendrai sur les gens qui
mais
sont éborgnés.
C'est impunité contre impunité, parce que vous dites qu'il y a l'impunité des forces de l'ordre.
C'est-à-dire qu'on
voit
vous dire qu'il y a des enquêtes à l'IGPN. Il y a des enquêtes à l'IGPN. Non, on vous dit qu'il y a des enquêtes à l'IGPN qui durent des mois, parce qu'il y a une double enquête administrative et pénale. Donc... On va appliquer la justice immédiate pour les manifestants et pour le policier qui va commettre des violences, et ça arrive. Moi, j'accuse pas tous les policiers, mais je pense que certains, sous l'image de la police, par des comportements qui sont pas adaptés. Mais le problème, c'est que le policier, celui qui commet quelque chose, une infraction qui est flagrante, eh ben, il pourrait être mis à pied pour un peu apaiser les choses. Et ça n'a pas été fait par le gouvernement. Et ça, c'est immédiat.
every thought that I ignore. Now the questions at my door, it's where we begin to believe in this again. Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head, songs left unsaid. Do you know how we got here? Do you know? To eat the words you wrote. I've said these words before. Felt this break, close that door. Are you a stranger?
Again, la pop jazzy de l'américaine Nora Jones sur France Inter. Tout de suite, retour sur le terrain de la police, victime ou bourreau, si on veut jouer l'affrontement, à J-2 de la marche de la colère prévue pour mercredi prochain. Motivée par le ras-le-bol des policiers, on les écoute.
Ils n'ont plus peur de rien, il y a un sentiment d'impunité, ils se permettent de casser du flic, essayer même de tuer du flic.
J'en ai assez de cette fable du gentil casseur et du méchant flic. Inversant totalement la charge de la preuve.
Aujourd'hui, on est là, on se rassemble en fait pour dénoncer la haine contre les forces de l'ordre qui, notamment, s'est développée de manière exponentielle sur les réseaux sociaux, sur les forums.
Monsieur Mélenchon, il fait quoi? Il attise une haine anti-flic. Les collègues, chaque week-end, depuis des mois, ils sont traînés dans la boue.
Il y a vraiment un ras-le-bol général.
Là, effectivement, les boules sont très hautes là.
Agnès Naudin, je rappelle que vous êtes policière à la Brigade des Mœurs et l'auteur d'affaires d'ados. Qu'est-ce que vous, comment vous réagissez à ces propos?
Vous voyez sourire. Vous en avez ras-le-bol?
Vous voyez sourire à ce que vous entendiez?
Moi, j'ai arrêté de les écouter.
C'est vrai?
Oui.
Pour quelle raison?
Parce que je pense que ça fait partie des choses sur lesquelles on dépense une énergie folle et complètement inutile à écouter ces propos. Moi, j'ai arrêté. Ça ne m'intéresse pas. Voilà.
Ce sont les propos de policiers là qu'on vient d'entendre. Hein.
Ah non, je parle pas de ceux-là, je parle de ceux de Mélenchon.
Ah, les propos de Mélenchon, voilà. D'accord, je me disais.
Ah
bizarre.
Non, les autres, non, je les connais, ouais, les écoute, je les entends. Enfin, je veux dire, voilà. Je
vous êtes pas une barbare.
Je suis dedans, donc non, je pense pas, je crois pas. En tout cas, on me l'a jamais dit, mais.
Mais moi, j'ai entendu quelque chose, Agnès Naudin. C'est lorsque les manifestants disent les policiers éprouvent un sentiment d'impunité.
Et les policiers disent, les casseurs ont un sentiment d'impunité, comme si on ne les punissait pas. Vous ressentez ça, vous aussi, cette pression d'un double, qu'en quelque sorte, les policiers arrêtent des gens et puis qu'ils se font libérer peu de temps après?
Ça fait partie de la procédure pénale et des enjeux qu'il peut y avoir en politique pénale depuis toujours. On l'a tout le temps entendu et on continuera de l'entendre.
Vous réarrêtez sans fin des gens qui sont libérés peu de temps après?
Oui, mais c'est la procédure pénale qui le veut, donc en même temps, c'est pas de notre ressort. On dit souvent oui, mais la justice, elle n'incarcère pas. Mais il n'y a pas que la justice, il y a aussi l'administration pénitentiaire. C'est une politique pénale qui est à mettre en œuvre. Après, on choisit sur qui on veut. Quelles sont les infractions sur lesquelles on veut accentuer, celles sur lesquelles on n'accentue pas. Enfin bref, moi par exemple, je pourrais très bien dire tous les problèmes de stupéfiants. Je pense qu'on passe un temps infini sur des choses comme ça, sur lesquelles on perd énormément de temps. Temps qui pourrait être réemployé à faire d'autres choses qui, à mon sens, sont beaucoup plus importantes. Donc tout dépend du point de vue où on se place. Et je crois que les enquêteurs dont je fais partie, moi j'ai de la chance, je suis dans un service dans lequel je travaille sur des crimes, c'est quitte ou double, quoi. C'est soit ça part en assise, soit ça va en classement sans suite, il n'y a pas d'intermédiaire, mais on a un parquet derrière qui nous suit, on travaille avec les juges d'instruction, on a de la chance entre guillemets de faire partie de ceux qui ont une visibilité sur ce qui se passe derrière, pour autant qu'on veuille le suivre, parce qu'il y en a que ça n'intéresse pas de savoir ce qui se passe après. Ce qui était mon parti, moi, quand je suis rentrée dans ce service-là, en me disant, je veux pas savoir ce qui se passe après, parce que justement, je veux pas être frustrée, finalement, on le suit, parce que forcément, après, il y a l'instruction, après, il y a les assises, et c'est vrai que c'est toujours gratifiant de voir que les enquêtes qu'on a menées, elles arrivent jusqu'au bout, et après, je suis pas en commissariat. Et
mais ça, le c'est problème, plutôt c'est bon que signe sont... pour la démocratie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent c'est la fin de la démocratie. Vous parlez de régression de la démocratie, Monique Chemillier-Gendreau. Or, on a quand même l'impression finalement que même, on pourrait dire presque à la limite que le laxisme de certains juges, c'est aussi une preuve de démocratie. Si on était en dictature, il n'y aurait pas de laxisme de certains juges.
Oui. Quand je parle de régression de la démocratie, je fais allusion à la substance de la démocratie. Parce qu'il y a les procédures, on vient d'en parler, mais la substance de la démocratie, c'est l'inclusion de tous dans la même société. Et ça, c'est en régression, sans aucun doute. Parce qu'on désigne toujours ceux qui n'en sont pas. Même s'ils sont sur le sol, même s'ils ont la nationalité, mais ils n'en sont pas. Ça, c'est terrible.
Et là, en l'occurrence, moi, ce qui est plus compliqué, c'est ceux qui travaillent dans les commissariats, pour lesquels ils vont sans arrêt avoir affaire aux mêmes personnes, qu'on va relâcher indéfiniment. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas voir que la politique pénale, il y a aussi la politique sociale derrière. Et aujourd'hui, on fait beaucoup plus de social que de pénal. Et c'est en ça peut-être aussi que la plupart des flics ont l'impression d'être, qu'on les a trompés sur la marchandise. Ils sont rentrés dans la police pour faire pour mettre les méchants en cabane. Et finalement, ils se retrouvent avec des petits merdeux, comme on les appelle là, qui viennent récurremment et qui emmerdent tout le monde. Il n'y a pas que nous. Donc on peut aller voir dans l'éducation nationale, c'est la même chose. Et ça, c'est une politique, je pense, qui est beaucoup plus générale de la façon de voir les choses et de les agencer. On est tributaire de ça au même titre que tous les autres, finalement.
Je deviens trop bien.
Oui, mais ce qui est raconté là, c'est le témoignage
de tous les
absolument
policiers.
Unanime de tous les policiers. Le fait que des milliards et des milliards aient été déversés sur le social sans que soient résolus, et même au contraire, les problèmes de sécession de certains quartiers. Rappelez-vous le petit discours de Gérard Collomb lors de la passation de pouvoir avec son intérimaire, le Premier ministre Édouard Philippe, sur le perron de la place Beauvau, il a dit j'ai peur que bientôt on assiste à un face-à-face dans les quartiers, en parlant des caïnes, en parlant de l'islamisme. Il y a tout un tas de phénomènes qui ont gangréné une partie des territoires français, dont on ne peut absolument pas attendre de la police qu'elle les résolve. C'est ni sa mission, ni ses moyens.
Avant qu'elle les résolve, c'est qu'elle les appréhende. Et ces phénomènes-là, socio-culturels, en termes de formation et d'approche, on en a en a très peu. Donc ceux qui sont sur le terrain, et là je rejoins dans ce que vous disiez à un moment donné, je veux dire, on leur donne pas les moyens, c'est-à-dire qu'on leur donne des outils, effectivement, on va y appeler la force publique, et donc des armes qu'ils vont utiliser comme ils peuvent, et avec voilà, avec leur discernement sur dans des situations qui sont critiques et donc parfois menant à la bavure, mais malgré eux, enfin je veux dire, ça les aime, enfin je peux pas concevoir qu'un flic qui fasse le métier qu'il fait, je veux dire, le fasse de façon volontaire. Déjà. Et de ce fait, après, ils font, quand je dis ils font avec ce qu'ils sont, c'est dans leur d'où ils viennent, la formation qu'ils ont reçue, la façon dont ils appréhendent eux-mêmes la société, parce que parfois, et bien souvent, ils ne la comprennent pas. Donc forcément, ça amène bah, voilà, à des problèmes de communication, et on en revient à ce que vous dites et ce que vous décrivez sur le fait qu'on n'est pas assez inclusif dans la société, et que de ce fait, ça se perd. Alors on essaye sans arrêt, on en revient à la politique de proximité, etc., etc. Mais
de réintégrer cette société, ouais.
Oui.
Oui. Si
ouais, mais je comprends la difficulté des policiers sur le terrain. Et comme je vous dis, hein, si ces petits jeunes là qui sont relâchés par la justice, si vous leur dites de mettre un gilet jaune, ils ne ressortiront plus. Parce que c'est moi ce que j'ai vu pendant ces mois de manifestation, c'est que là, il y avait vraiment un acharnement sur ce mouvement social qui fait peur au gouvernement. Or le problème de l'insécurité, des zones de non-droit, etc., ça ne met pas en péril le gouvernement. C'est quelque chose qu'on regarde de loin, un sujet tabou qu'on laisse évidemment aux extrêmes le soin de développer. D'ailleurs, je vais vous donner un petit exemple concret, comme quoi c'est surtout pas le gouvernement qui s'en mêle, hein, de la sécurité tous les jours pour les citoyens qui en souffrent, hein, des dealers, de la drogue, etc., ou de l'islamisation dans certaines banlieues. Un maire dans le Nord a évacué toute une HLM, toute une population d'une HLM pour le mettre ailleurs, parce qu'il souffrait de l'insécurité. Et ça, c'est de la politique locale, hein, c'est pas le gouvernement qui s'en occupe. Donc là, maintenant, on essaie d'en parler quand on arrive à des échéances électorales, mais c'est pas du tout la préoccupation du gouvernement. Alors que ce mouvement social, ça fait peur au gouvernement parce qu'il va pas donner de réponse.
Ah ben, ce sera le mot de la fin. Merci à vous tous. Tout de suite, on va partir du côté de la musique. Elle est live. Il n'est pas du tout gilet jaune, il est même très chemise blanche.
Il a ses papiers.
Ouais, il est très chemise blanche. Très BHL ce soir, notre invité. On va en parler.
Sur France Inter.
Très BHL, je ne sais pas quand même.
Moi, ouais, je suis pas sûre que la référence lui parle vraiment.
Vestimentairement, ça se tient.
Je vois que tous nos invités ont mis le casque. Vous avez un petit bouton pour régler le volume, pour écouter Rodolphe Berger. C'est loin d'être un inconnu sur cette antenne. Dans cette émission, c'est la star de la guitare réverbérée Made in France. On adore sa voix grave, les sons amples de ses guitares qu'on commence à entendre derrière moi. Là, moi, j'aime beaucoup. Voilà.
Voilà.
On se souvient de ses débuts avec le groupe Catonomade, de ses collaborations géniales avec Bachung, Françoise Hardy, Higelin, Jeanne Balibar. Rodolphe Berger est aussi un rassembleur. Dans son orbite, on retrouve Jeanne Hadet, Bertrand Belin, le regretté Rachita. C'est un musicien infatigable, toujours un ou 10 projets en cours, il faut le suivre. Et le dernier en date, c'est la renaissance de son festival. Ça s'appelle C'est dans la vallée, dans son pays, à Sainte-Marie-aux-Mines, en Alsace. C'est la 13e année avec une édition, cette fois-ci dédiée à Jacques Higelin. Ils avaient déjà enregistré 2 disques ensemble. Et Rodolphe Berger était de la soirée hommage qui avait eu lieu au printemps de Bourges dernier avec Isia, Arthur Arch. Et je crois, Rodolphe, que vous allez marquer le coup par un concert, bien sûr, mais aussi avec la complicité de la commune. Il est question d'un endroit spécial, je crois.
Ah.
Oui, mais oui, bonsoir Rodolphe.
Bonsoir. Il a cette année un succès particulier, donc il est sold out. Mais malheureusement, on a dû aussi, alors peut-être c'est voilà, l'effet collatéral de ce qui a fait l'objet de votre discussion ce soir.
Oui, parce qu'en fait, il y avait une soirée électro qui était censée clôturer le festival.
Ouais.
Et une soirée électro que vous avez dû modifier complètement.
Annuler.
Ouais, pour quelle raison? Annuler pour quelle raison?
Annuler parce qu'aujourd'hui, la surenchère sur si vous voulez, les exigences sécuritaires sont telles qu'en effet, les festivals sont obligés d'annuler certains événements qui sont pourtant purement festifs et inoffensifs. En plus, il y a quelque chose que j'ai appris à cette occasion, c'est que la préfecture facture à la commune, ou à l'organisateur plutôt, en l'occurrence c'était la commune, ou à l'organisateur du festival, les frais de
protection.
La brigade supplémentaire, par exemple, qu'il faut. Et là, évidemment, ça, c'est une manière indirecte de supprimer l'événement.
Rodolphe, vous allez jouer un titre qui sera normalement sur votre prochain album qui arrivera en début 2020. Je vous laisse le jouer. Rodolphe, c'est à vous.
Merci.
Thank you.
day. It's ba ba boom time, yes it is. Don't lose the beat now, just dip your head now. It's festival fire, listen here. Listen here. Freddy, get ready. Come to rock steady. It's festival fire. Listen here. You hear the people say boom, boom, ba ba boom.
Voilà, le dub version Rodolphe Berger, ça marche très très bien. Le festival C'est dans la vallée, c'est ce week-end du 4 au 6 octobre. Et Rodolphe Berger aussi sera une soirée hommage Rachita avec le Couscous Clan. Cette fois-ci, ce sera le 18 octobre à Bobigny. Prise de son ce soir, Fabrice Desmaz, Julien Dumont. Merci messieurs, merci beaucoup Rodolphe d'être passé par le Nouveau Rendez-vous.
Et merci à nos quatre invités, merci Judy Ventro, merci Philippe Deveux, Agnès Naudin, je rappelle. Merci. Affaire d'ado, c'est aux éditions du Cherche Midi. Et Monique Chemillier-Gendreau, Régression de la démocratie et déchaînement de la violence, c'est aux éditions Textuelles. Merci à vous quatre. Le débat sur la police n'est pas fini, vous pouvez le prolonger demain soir avec le téléphone sonne à 19h20 qui va se demander si la police est au bord de la crise de nerfs. Voilà, ça c'était le NRV première partie, on se retrouve dans 15 minutes pour le NRV la suite pour plus de France Inter. Mais demain, au programme, ce sera qui, ce sera quoi ?
Soignant, c'est une vocation, mais ça veut pas dire qu'on va pas perdre patience. Le taf de 4 fait à 2, tu deviens pas Shiva même si t'es en transe. Basique. Personne ne veut
autre crise sociale, hôpitaux en crise, grève des urgences, plan santé, patients violents. Et si on faisait un bilan de santé des soignants ? On vous attend sur le sujet. Vous pouvez bien sûr laisser des messages, des questions, vos analyses sur notre répondeur 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. En live, Marion.
L'électropop d'Avir Léon.
Le nouveau rendez-vous, vous le savez, c'est deux fois plus de chances de nous écouter. Ça commence dès 18h. 22h sur franceinter.fr et en podcast, ou alors 22h minuit pour ceux qui ont un transistor comme vous, Christophe Bourseiller.
Oui, oui, oui.
Parfait,
oui,
parce qu'on passe à la radio. Le NRV, c'est Marion Lelay à la réalisation, la programmation et la préparation, Virginie Rouzic et Clémence Diligent. Je vous donne rendez-vous dans 15 minutes après le journal sur les traces du jazz avec Give Anctil. C'est au programme du NRV La Suite, France Inter, plus de Give Me Jazz ce soir. À tout de suite.
Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases.